Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliten et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Cette semaine, je reçois Barbara Fauconnet sur le podcast et ce que je peux vous dire, c'est que son ambition est aussi forte que le sport qu'elle défend, la boxe. Après 6 années en tant que brand manager chez LVMH et une expérience en Australie, Barbara lance The Knockout, une marque pour les boxeuses bien sûr, mais également pour celles et ceux qui s'intéressent au sujet de santé mentale. Puisque ce sport appelle énormément de choses au niveau du mental, de l'aspect tactique, agit sur des pathologies de dépression, d'anxiété. Études à la clé. Que retient-elle de ses années chez LVMH ? Est-ce que la mise en place et la réflexion entrepreneuriale étaient fluides ? Quelles ont été les premières étapes de mise en place ? Je vous souhaite une très très belle écoute. Barbara, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton parcours et puis du lancement de ta marque The Knockout. Je ne sais pas si je prononce bien, j'espère. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et revenir sur ton parcours ?
Yes, je m'appelle Barbara, j'ai 30 ans et du coup j'habite à Paris. Et du coup j'ai lancé The Knockout il y a maintenant un an, tout juste. Et avant ça, j'ai beaucoup habité à l'étranger. Je suis une passionnée de sport aussi, donc on va dire que les voyages et le sport, c'est ce qui drive un peu ma vie. Et du coup, avant d'être dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, j'étais dans une toute autre vie salariée chez LVMH, du côté vin et spiritueux, donc absolument rien à voir. Donc j'ai jamais eu d'expérience ni dans la mode, ni dans l'univers du sport auparavant. Et j'ai habité en Australie pendant 2 ans et demi. Du coup, et puis avant ça, je bossais aussi chez LVMH, mais au siège à Paris. Donc première aventure entrepreneuriale avec The Knockout, ça s'est fait assez naturellement, mais en tout cas, de base, pas du tout dans cet univers, pas du tout dans l'idée de forcément créer une marque, même si c'est un truc qui m'a toujours un peu trotté dans la tête. En fait, j'étais plutôt très bien dans le salariat, donc j'avais pas forcément... tu vois, l'opportunité là tout de suite d'aller vers l'entrepreneuriat, surtout que j'avais pas forcément de modèle non plus autour de moi.
Ouais.
Donc voilà.
C'est encore plus intéressant, de toute façon on va revenir sur ça tout au long de l'interview. Toi, comme tu le disais, tu as travaillé 6 années chez LVMH en tant que brand manager en France et en Australie, ce qui appelle le voyage comme tu disais. Est-ce que c'était un rêve, est-ce que c'était une passion de travailler dans cet univers assez luxueux, faut se le dire, dans ce beau groupe.
Ouais. Alors, c'était pas forcément un rêve d'être chez LVMH, parce que je pense que quand j'y suis rentrée, j'avais 22 ans et j'étais en alternance, donc j'ai été embauchée par la suite. Mais en tout cas, mon objectif, c'est de travailler dans les vins spiritueux. J'ai toujours été passionnée par les vins, j'aimais beaucoup tout l'aspect un peu technique, le côté aussi assez masculin. Tu vois, j'avais beaucoup de copines qui allaient dans la beauté, dans la mode, enfin qui était attirée par tout ça, ce qui n'était pas forcément mon cas. Et en fait, j'aimais bien l'idée, mais je pense depuis que j'avais 15 ans, de faire partie d'un univers où il y a des connaissances à acquérir. Tout le monde n'est pas forcément attiré par cet univers, mais en tout cas pour le connaître et pour rentrer dedans, bah voilà, faut connaître les terroirs, faut connaître les différents types de cépages. Donc il y a un côté un peu découvert, technique, intéressant, assez unique aussi. Donc moi j'ai toujours voulu être dans les vins spiritueux, J'ai fait mes stages avant LVMH en cave, chez des cavistes, etc. Donc, c'était tout tracé pour moi. Et puis, j'ai eu la chance de rentrer en alternance chez Moët Hennessy, donc dans la maison Hennessy, qui est une maison de cognac. Donc, c'était pas forcément les vins pour le coup, mais c'était plutôt les spiritueux. Et par la suite, j'ai pu évoluer, tu vois, au sein de la société et du coup me rendre compte en fait de la chance que j'avais de faire partie de ce groupe qui est un très grand groupe où y a des moyens, il y a une structure qui est là pour nous faire grandir, nous accompagner, surtout quand on a 22 ans. Et donc voilà, donc moi j'avais eu la chance en fait avant ça de travailler dans une agence pendant un an et demi. Donc j'avais fait un stage et puis par la suite ils m'avaient proposé de rester pour remplacer ma chef à l'époque qui était tombée enceinte. Donc j'avais 20 ans, donc j'avais arrêté l'école pendant un an. Ils m'avaient laissé partir pendant un an. Donc c'est un peu les années de césure qu'on fait maintenant, sauf qu'à l'époque, ouais. Je dis ça, c'était il y a 12-13 ans, c'était pas encore trop à la mode, ou en tout cas pas en France. Et du coup, ils ont accepté et ça m'a donné en fait une super expérience en agence qui a fait que par la suite, je pense que par rapport à d'autres candidats pour entrer chez LVMH, j'avais une petite longueur d'avance. Donc voilà, donc pas forcément un rêve de rentrer dans l'univers du luxe, mais clairement l'envie d'être dans les vins et spiritueux et dans tout cet univers assez masculin. Et du coup, tu remarqueras que je suis toujours un peu dans un univers masculin avec la boxe.
Intéressant, on va peut-être essayer de creuser pourquoi aussi quand on va parler de ta marque. Tu vas peut-être démentir totalement mes propos, mais c'est vrai qu'on peut avoir assez, pas mal de clichés sur les grands groupes comme ça où il y a pas mal de burn-out, justement, de personnes qui quittent comme ça les grands groupes pour se lancer à leur compte ou pour créer une marque. Ça peut être assez difficile, en plus, avec ton jeune âge, de se sentir en confiance, de se sentir épanoui dans des groupes, enfin, dans des rôles, dans des positions telles celles que tu avais. Quels ont été, toi, peut-être tes tips pour prendre ton rôle et pour assumer vraiment ta position au sein du groupe?
Je pense que c'est hyper... ça dépend beaucoup de l'environnement en fait, dans lequel on est. Moi, je peux te démentir tout à fait que les grands groupes, c'est horrible. Il y a des burn-out et tout. Alors oui, il y en a. Et peut-être qu'on en entend beaucoup parler, mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent aussi dans ces grands groupes. Donc quelque part, il y a forcément des gens qui doivent s'y plaire et qui en parlent peut-être moins parce que bon, bah, voilà, ça se passe bien. Mais en tout cas pour moi ça s'est très bien passé. J'ai été très soutenue malgré mon jeune âge, le fait que aussi je sois une femme et que encore une fois c'était aussi quelque chose d'assez particulier, tu vois, quand on est à Paris, les équipes marketing, etc., il y a toujours beaucoup de filles. Par contre, quand on descend à Cognac pour aller voir les équipes, Hennessy c'est 1000 personnes dont 95% qui sont justement à Cognac, qui sont dans l'univers vraiment, tu vois, le rapport avec la terre, ils sont près, ouais, des vignes. Mais pour autant, j'ai été soutenue. Et donc, je pense que quelque part, c'est très forcément un peu dépendant de l'équipe dans laquelle on évolue. Mais après, moi, mes tips, c'était... j'ai beaucoup travaillé. je pense que j'ai pas hésité, tu vois, des soirs à finir très tard. Donc ça, c'est un cliché aussi, mais pour moi, ça a été une réalité. C'est-à-dire, j'ai beaucoup donné, mais j'ai aussi beaucoup reçu en retour. Donc, dans ce sens-là, c'est toujours... c'est OK. Et après, j'ai pris confiance petit à petit. J'ai beaucoup travaillé en fait, parce qu'à l'époque, j'avais pas nécessairement une grande confiance en moi, ou en tout cas, j'appréhendais pas encore tous ces sujets, tu vois, d'avoir confiance en moi, de parler devant une assemblée d'hommes en costume qui avaient plus de 50 ans et qui étaient là pour valider toutes les décisions. Donc, je pense que c'est beaucoup grâce en fait à l'environnement dans lequel j'ai évolué, les équipes, les gens, que j'ai pu prendre cette confiance en moi. Et grâce au travail que moi j'ai fourni en parallèle, ils m'ont fait confiance et ils m'ont soutenu. Donc pour moi, voilà, je pense que la valeur travail, elle est importante. Et puis, faut savoir donner et faut savoir aussi observer aussi ce qu'on est capable de nous donner en retour. Mais en tout cas, j'avais bien compris que si je donnais, potentiellement derrière, j'avais des belles portes qui pourraient s'ouvrir. Et donc j'ai pas hésité, à faire des grosses amplitudes horaires. J'étais en alternance, mais je revenais après l'école pour travailler. Je revenais. Tu vois, je finissais l'école à 17h, de 17h à 21h, j'étais au bureau.
Et qu'est-ce que tu as appris pendant ces 6 ans qui peuvent te servir aujourd'hui dans ta marque, au jour le jour?
Énormément de choses.
J'imagine.
Je m'en rends compte aujourd'hui. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être sur un poste qui était qui était très facilement en fait transposable à plein d'autres univers. Et puis souvent d'ailleurs on dit que tu as évolué dans la mode, ou tu as évolué dans la beauté, ou tu as évolué dans les vins spiritueux, et finalement c'est ça ton domaine, et du coup si tu postules pour un truc qui a rien à voir, enfin un poste similaire mais dans une autre industrie, souvent ça met des barrières, alors qu'en réalité, enfin je pense que je suis un peu la preuve vivante que je n'ai jamais fait de mode, j'ai jamais fait d'univers du sport avant, et pour autant les mécanismes de marketing, de vente, etc. Ils sont quand même assez similaires. Donc moi à Paris, j'étais dans une équipe donc marketing en siège, donc on était beaucoup sur la stratégie marketing, la vision de la marque, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on délivre en fait au marché qui vont recevoir tous les assets qu'on va créer, donc que ce soit des visuels, des campagnes, des nouveaux produits. Nous on était en charge en fait de designer tous ces programmes et ensuite de les délivrer au plus gros marché. Donc pour moi c'était beaucoup les États-Unis. Et ensuite, ces marchés les recevaient et les implémentaient en fait dans leur pays. Donc moi, j'ai la chance d'être de ce côté-là de la barrière, à Paris, en créant des belles choses avec beaucoup de budget, etc. Et puis ensuite d'aller en marché. Donc je me suis passée de l'autre côté en étant en Australie, donc en recevant en fait ces programmes-là pour les adapter en local au marché australien, qui est un marché bien spécifique. Et puis derrière, d'être beaucoup plus sur le terrain, d'être beaucoup plus lié aux forces commerciales, de suivre beaucoup plus les ventes au jour le jour. Donc en fait, j'ai eu la chance de voir et le côté siège où on est un peu dans notre tour d'ivoire, on crée des belles choses, il y a du budget, c'est beau, c'est cool, il y a une vision, et le côté marché où en fait on est un petit peu plus dans le dur parce que on est sur le terrain, on est face aux consommateurs, donc faut être capable de réagir, d'être raccord avec les attentes, d'être plus sur le terrain, etc. Donc j'ai eu la chance en fait de voir les deux aspects et tu vois, de mener des campagnes médias aussi, ce qui peut m'aider aujourd'hui, de développer des assets marketing, enfin voilà, toute cette partie-là du coup pour moi c'est, on va dire que c'est pas le plus compliqué. Et donc cette expérience elle a été hyper complète, même si en soi j'aurais pu encore faire 20 ans chez MMH sur d'autres marques et puis dans d'autres domaines. Mais je pense que déjà, j'avais un petit bagage assez cool, je pense, pour débuter une marque et d'avoir un peu le tampon LVMH derrière qui est quand même assez...
Et d'ailleurs, donc justement, pour en parler, moi, je trouve ça hyper original, tu vois, de créer, de quitter comme ça un groupe pour lequel il y a beaucoup, je pense, qui se bousculent à l'entrée, pour se dire, OK, j'ai 30 ans, mais j'y vais, je mets un peu... un trait sur mes belles années et je crée ma marque. Alors, comment ça t'est venu ? Est-ce que c'était un déclic ? Est-ce que c'était un cheminement ? Quel a été le processus pour toi de te dire « Ok, je plaque tout et je crée une marque » ? Est-ce que déjà, tu avais l'idée ? Comment ça s'est passé ? Raconte-moi.
Alors, ça a été plutôt un cheminement et en fait, j'ai pris un peu les signes au fur et à mesure du chemin, on va dire. C'est plein de concours de circonstances. Je pense que quand on entreprend, il y a aussi une grosse partie de timing. Moi, ça a été mon timing parce que tout à fait que tout était aligné, qu'à un moment donné, j'en avais envie et je l'avais pensé depuis longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est maintenant, en fait. Après, tout ça n'arrive pas forcément à tout le monde d'un coup. Et je te disais, moi, j'ai eu aucune raison en soi de quitter le groupe parce que ça se passait extrêmement bien pour moi. Tu vois, je te disais, j'étais à Paris au siège et c'est eux qui m'ont envoyé en Australie, c'est eux qui m'ont proposé de prendre ce travail. Et j'étais très jeune et c'était assez... j'ai été encore une fois très soutenue. Donc, c'est vrai que pour moi, quitter le groupe et quitter les équipes, ça a été difficile parce que ça se passait très bien. Maintenant, en fait, je pense que tout a commencé quand je suis partie en Australie. Je suis partie toute seule, je connaissais personne. Je pense que ça a déjà été une espèce de développement personnel grandeur nature.
Ouais.
J'ai commencé chez LVMH assez tôt. J'avais l'impression d'être montée en compétence assez rapidement, qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait donné des beaux projets. Alors, j'aurais pu aller encore plus loin. Mais finalement, et peut-être que c'est un peu le propre de notre génération aussi, j'ai vite eu assez en fait de ce qu'on m'a donné et j'étais à la recherche d'autre chose. Et puis l'Australie s'est présentée, génial, nouveau challenge. Et je pense que j'étais dans une phase de ma vie où j'étais très très dans le challenge, l'envie d'avoir des nouvelles choses à explorer, etc. Donc je suis partie en Australie et puis après un an en Australie où j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans parce que faut se faire des amis, il faut recommencer une vie en fait. Et je suis partie en Thaïlande justement pour boxer. Donc en fait, le fil conducteur de tout ça, ça a toujours été le sport pour moi, parce que je suis partie en Australie toute seule. Donc l'idée, c'était de garder une routine, et le sport, c'était ma routine. Donc, c'est ça qui m'a drivée, qui m'a fait rencontrer du monde, etc. Et je suis partie en Thaïlande boxer, parce que je fais de la boxe thaï depuis quelques années. Et je suis partie toute seule, et c'était les premières vacances, en fait, où je suis partie toute seule. Et avant, j'aurais jamais osé, mais je me suis dit, bon, je suis partie en Australie toute seule, il n'y a pas de raison, en fait. Et du coup, ce voyage, c'était un peu... j'ai un peu pris de manière... pas spirituelle, mais ça s'est un peu présenté comme ça. J'ai fait des rencontres assez... assez improbable, des gens qui m'ont dit des choses, enfin voilà, et en fait le cheminement de j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose avec mes mains, entre guillemets, et créer ma marque, ça a commencé là-bas. Et donc en fait je m'étais mis un rituel tous les matins de me lever, enfin de garder le rythme en fait de l'Australie, parce que du coup avec le décalage horaire je me levais à 5h du matin, et donc à 5h j'étais sur la plage au lever du soleil, et j'écrivais un peu, enfin voilà, je faisais un peu le point sur ma vie, j'avais un peu pris cette semaine-là en Thaïlande pour me dire, ok, ça fait un an que je suis en Australie et maintenant, so what, quoi, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Est-ce que je m'installe ici et dans ce cas-là, je suis à des milliers de kilomètres de ma famille, de mes amis? Est-ce que je m'y plais? Est-ce que, en fait, je plaque tout et je retourne? Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des questions que je me posais et puis, en Thaïlande, ça a commencé où je me suis dit, voilà, j'avais vraiment envie de créer quelque chose. À terme, pas rester dans le groupe, à terme, voilà, vivre ma propre aventure. J'ai toujours voulu entreprendre, même si encore une fois autour de moi il n'y a pas du tout, tu vois, de grands entrepreneurs à part ma grand-mère. Et du coup j'ai écrit sur un papier ce jour-là que j'ai écrit deux rêves, et un des rêves c'était qu'un jour j'aurais ma propre entreprise. Et en fait, sans le savoir, un an et demi après, j'ai pris la décision de le faire, et j'aurais jamais imaginé que c'était ça allait se passer aussi rapidement. Et en fait, il se trouve que il y a plein de concours de circonstances qui se sont passés. Mais déjà, la première chose, c'est que je me suis mis en couple avec quelqu'un qui habitait en Europe. Donc, on a vécu une relation à distance pendant un petit moment, mais Europe-Australie, si tu veux, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Il fallait que je prenne la décision de quitter l'Australie et de le rejoindre. Donc, c'était un peu un pari, ce que j'ai fait. Parce qu'encore une fois, je suis dans une phase de ma vie où je prenais des risques et je suis une fonceuse. Donc, j'ai pas hésité, j'y suis allée. Même si, encore une fois, voilà, ça m'a fait un pincement au cœur de quitter l'Australie, de quitter le groupe. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée à finalement bouger et à déménager officiellement et prendre l'avion et quitter l'Australie un 20 mars 2020. Extrêmement mauvais timing. Donc, j'ai bougé en Écosse, puisqu'il habitait en Écosse, et je me suis retrouvée arrivée la veille du confinement en Écosse, qui n'a pas été aussi court que le confinement en France. C'est-à-dire que là-bas, ça a été très strict et ça a duré 3 mois. Et en fait, j'avais des pistes de travail pour continuer à bosser dans les vins et spiritueux en Écosse. Il y a beaucoup de whisky, etc. Donc, ça tombait plutôt bien. Et en fait, toutes mes pistes sont tombées à l'eau. J'ai reçu des mails. En fait, on va arrêter les recrutements. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a ce Covid. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvée le bec dans l'eau et je me suis dit, enfin, voilà, je me suis pas démontée. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais prendre ce temps pour réfléchir un peu. Et voilà. Puis, à ce moment-là, je pense qu'on savait pas que ça allait durer aussi longtemps, etc. Et en fait, après quelques jours, je me suis dit, en fait, je peux pas rester comme ça à rien faire, je vais péter un plomb. Déjà, j'ai changé de pays, je suis passée de Sydney à Édimbourg, donc le choc, il est un petit peu violent.
Tu m'étonnes.
Puis tu vois ton conjoint qui travaille, qui a ses réunions, et puis bon, bah toi, t'es là, ok. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à bosser sur un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Et donc, dans l'heure qu'on avait pendant ce confinement en Écosse, on avait une heure pour se balader dans le parc. C'était un peu comme la prison, quoi. Dans le parc en face de chez nous. Et donc, on se baladait avec mon conjoint et je lui disais que j'avais envie de créer quelque chose et surtout une marque de sport. J'étais fan de sport. J'ai toujours fait du sport. J'adore ça. Et puis, je pense que je suis hyper excitée quand je rentre dans un magasin de vêtements de sport. C'est inexplicable. Je sais pas comment te dire. C'est peut-être bizarre, mais j'aime trop toucher les matières, l'aspect technique. Enfin, voilà, c'est un truc, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit que je voulais créer une marque de vêtements de sport. Et il m'a dit, bah voilà, en fait, des marques de vêtements de sport, il y en a plein. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter de plus? Enfin, tu vois, l'idée, c'est quand même de créer quelque chose qui soit différent et de pas répéter forcément les choses. Et je lui ai dit, bah, moi, mon angle, c'est la boxe, en fait. Je fais de la boxe depuis plusieurs années. Le mindset, il est quand même assez, assez fort. Et puis, il y a un message derrière, une femme qui monte sur un ring ou une femme qui fait de la boxe et qui met ses gants. Ça a quand même quelque chose de powerful.
Ouais.
Et donc, du coup, je lui ai dit, bah voilà, mon angle, c'est la boxe. Et il m'a dit, bah, let's go, commence à bosser dessus. Et puis voilà, c'est passé de, ok, c'est cool, à, ouais, c'est intéressant. Donc, petit à petit, je lui ai montré un petit peu mes avancées. J'ai regardé un peu le marché, etc. J'ai développé mon idée jusqu'au moment où on s'est dit, ah ouais, ok, en fait, il y a peut-être un truc à faire.
Et ouais, voilà, c'est intéressant. Parti. Quelles sont peut-être les premières étapes, en fait, quand tu t'es dit « Ok, maintenant, je lance, je pose sur papier. » Tu as commencé par quoi, en fait? Tu as commencé peut-être à sourcer les matières, à réfléchir au nom, à la communication. Comment, toi, tu as réfléchi pour avoir un projet un peu abouti?
Alors, moi, ce que j'ai commencé, pour moi, ce qui est le plus fort dans une marque, c'est la plateforme de marque. Donc, ce que je voulais, c'était... avoir un message clair, un message fort. Et après, en fait, les produits, ils en découlent. Enfin, voilà. Mais parce qu'en fait, à la base, je suis une marketeuse et je suis pas une designeuse. Je suis partie de, OK, en fait, la box, c'est quoi la box pour les femmes? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi le potentiel? C'est quoi les messages, en fait, qui sont intéressants? Et qu'est-ce qui me manque aujourd'hui sur le marché globalement du sport? Moi, ce dont je me rendais compte, parce que je pratique beaucoup de sport plutôt haute intensité, donc que ce soit, tu vois, du running, de la muscu, du crossfit, de la boxe. En fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais dans un magasin ou que je regardais en ligne, 8 leggings sur 10, c'était des leggings de yoga. Parce que déjà, j'étais en Australie, mais après même, je m'en suis rendu compte aussi en étant en Europe, c'était, voilà, c'est une grosse tendance. Il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dans, tu vois, la dimension yoga. Et je me suis dit, en fait, moi, ça ne me correspond pas. Parce que moi, je monte sur le ring, moi, je mets mes gants. Et en fait, c'est un tout autre mindset. Mmh. Et donc, j'avais vraiment envie d'explorer, tu vois, toute cette partie un peu hyper différente, en fait, de ce qu'on peut trouver sur, tu vois, le yoga, le pilates, la barre au sol, etc., qui n'étaient pas du tout mes univers. Et pour autant, voilà, c'est 80% de ce qu'on voit, ouais, des studios vrai. À Paris. Et en Angleterre, c'était pareil. Donc, j'ai eu le temps de me rendre compte, en fait, que c'était un peu ça, le marché. Puis après, j'ai fait des recherches et les faits se sont confirmés. Je crois que 8 leggings sur 10 qui sortent, c'est bien des leggings de yoga. Je crois qu'il y a un legging de yoga qui sort dans le monde toutes les 8 minutes. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, il y a un marché qui est déjà hyper développé sur ces aspects-là. Et pour autant, sur le reste, encore une fois, la boxe, les sports peut-être un peu plus dits masculins, il y a moins de choses, à part le running qui est déjà développé depuis quelques années. Et donc, du coup, j'ai commencé par ça, en fait. J'ai commencé à me dire, c'est quoi les messages? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire? Et en fait, pour te dire les choses, la manière dont le lendemain où je me suis mis à bosser sur la marque et ce que j'ai écrit, donc j'ai pris des post-it et j'ai tapissé mon mur de l'appartement à l'époque avec toutes mes idées, et ben, en fait, la plateforme de marque, elle a jamais changé. C'est-à-dire que tel que c'est aujourd'hui, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Et puis, un aspect qui m'avait beaucoup interpellé et sur lequel j'avais fait pas mal de recherches, c'était aussi tout l'aspect mental, parce qu'en fait, au-delà des vêtements, tu vois, j'avais vraiment envie d'avoir une mission de marque qui soit aussi, tu vois, inspirante, presque sur la santé mentale, c'est-à-dire l'importance du sport, mais il y a le sport et puis il y a la boxe, tu vois, comme je pense que c'est un sport à part entière, ça appelle beaucoup de choses au niveau de, tu vois, du mental, de la motivation, de l'aspect tactique, et puis c'est un sport qui est dur, qui est très dur, quand on voit au niveau, c'est se confronter à quelqu'un, c'est... Enfin voilà, il y a plein de messages, en fait, hyper, hyper intéressants. Et du coup, j'avais fait beaucoup de recherches aussi sur la partie santé mentale, comment est-ce que la boxe peut agir sur des pathologies de dépression, d'anxiété.
Ouais, justement, donc... c'est ce que j'ai vu sur ton site, c'est que tu dis la boxe qui aide à gérer le stress. Et justement, je voulais te demander d'où ça venait pour toi, cet intérêt pour la santé mentale. Est-ce que toi, personnellement, tu as été touché par le stress? Et voilà, d'où ça vient, ces problématiques-là? Parce qu'en général, il y a toujours un point de départ.
Ouais, alors moi, je pense, avant de partir de Paris, j'ai été dans un mood un peu particulier où j'étais pas forcément très bien dans ma vie. Enfin, du coup, comme je te disais, en fait, l'opportunité de l'Australie qui s'est présentée, c'était parfait. C'était un renouveau, mais tu vois, en fait, je m'en suis peut-être jamais rendu compte et c'est à ce moment-là où je me suis un peu, où j'ai un peu fait le point. Mais en fait, j'ai toujours eu le sport dans ma vie. Avant de faire de la boxe, je faisais du basket, en fait. Et du coup, j'ai toujours été deux fois à l'entraînement. Le week-end, on avait les matchs. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie de faire du sport. Et donc, sans s'en rendre compte, en fait, on en devient un peu dépendant. Je pense que dès que j'en faisais pas, je pouvais peut-être être pas plus irritable, mais voilà, c'était une vraie façon pour moi de décharger. Et je pense qu'on est tous un peu stressés, tu vois, les vies qu'on mène. Enfin, à Paris, je pense que c'est difficile d'être peace. Et donc, du coup, je pense que dans ce cadre-là, la boxe, ça m'a encore apporté quelque chose d'autre quand j'ai commencé à en faire. Et surtout, ça m'a challengé énormément parce que c'était vraiment, la boxe, c'est un peu comme un miroir, tu vois. C'est, tu te confrontes à quelqu'un et en fait, la personne qui agit devant toi, elle te renvoie exactement là où t'as des faiblesses. Et donc, du coup, moi, je suis pas quelqu'un de ultra stressé ou anxieux ou quoi, mais en tout cas, je pense que c'est parce que j'ai toujours gardé ce rythme et en fait, cette routine, tu vois, d'avoir du sport dans ma vie. Et puis, encore une fois, après, quand la boxe est arrivée, c'était, je pense, encore un autre type de, tu vois, de défoulement, voilà, d'apprentissage. Et donc, en fait, ça me tenait vraiment à cœur de faire des recherches là-dessus. Et tout s'est confirmé. J'ai trouvé des super, super études qui se sont faites en Angleterre, tu vois, qui démontraient, parce qu'un médecin qui était passionné de boxe avait démontré, en fait, qu'il avait pris, tu vois, des gens qui avaient pris des médicaments qui étaient en dépression, enfin, en situation de dépression ou d'anxiété assez importante. Et ils ont aussi testé d'autres gens dans les mêmes, qui avaient les mêmes types de pathologie, tu vois, avec la boxe. Et il se trouvait que, en fait, les résultats étaient assez flagrants, que la boxe, en fait, les avait complètement sortis, tu vois, enfin, les avait vachement aidés, en fait, dans leur évolution, et que finalement, c'était kiff-kiff avec les médicaments. Et donc, c'était assez, enfin, l'étude était assez impressionnante. Et donc, moi, j'ai voulu beaucoup creuser ce point. Et en revenant à Paris, justement, j'avais été, tu vois, dans un club où j'avais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'avait un peu expliqué que dans leur club de boxe, ben, ils invitaient, tu vois, des enfants qui étaient autistes à venir boxer tous les mercredis. Donc c'était une asso. Et du coup, j'avais pu, tu vois, aussi me rendre compte que bah, même les gens, enfin voilà, c'était pas un truc que je m'étais imaginé simplement, ouais. Dire. Alors je dis pas que ça soigne, hein, la dépression et l'anxiété, ni l'autisme, évidemment. Mais je pense que ça contribue au fait de se sentir mieux, au bien-être. Et en fait, c'était assez intéressant de dire, en fait, ces gens-là ou ces enfants-là, ils ont fait d'autres sports, on les a mis face à d'autres sports, mais quand on les met à la boxe, on remarque des comportements.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les changements dans leur attitude et leur façon de gérer les choses qui sont complètement différentes de, voilà, si on les emmenait sur une piste d'athlétisme. Donc tu vois, c'était tout ça, ça m'a pas mal passionné. Je me suis dit qu'en fait il y avait un vrai sujet aussi, donc c'était il y a 3 ans maintenant quand j'ai commencé à y réfléchir, autour de la santé mentale. Et depuis, bon, bah, je pense que la santé mentale, on en parle beaucoup plus, et le point de départ de tout ça, c'est aussi que moi, quand je suis arrivée en Australie, j'ai halluciné de voir à quel point, en fait, la santé mentale et la façon dont on en parlait là-bas était archi démocratisée. Alors qu'en France, je n'en avais jamais entendu parler. Avant de partir en Australie, j'étais un peu, enfin, voilà, j'étais un peu, peut-être pas dans une phase de dépression, mais j'étais dans une petite déprime pour tout ce qui se passait dans ma vie. Et en fait, quand je suis arrivée en Australie, il y avait une journée internationale autour de la santé mentale. Il se trouvait que c'était peut-être 2 semaines après que je sois arrivée et que j'ai commencé à travailler. Et ça s'appelait Are You Okay Day. Et ça m'avait marqué parce qu'en fait, il parlait de choses où je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que moi aussi ça m'est arrivé, et en fait je l'ai mis sous le tapis, ou j'ai même pas réalisé, parce qu'en fait on en parle tellement pas que j'étais même pas capable forcément d'identifier, tu vois, les symptômes, entre guillemets. Donc voilà.
Ouais, c'est hyper intéressant. Mais comme tu dis, en plus, c'est vrai que on entend beaucoup parler du yoga pour améliorer son bien-être, et très peu finalement de la boxe. Enfin, on n'a pas, en fait, en tête ces vertus comme tu peux expliquer un peu thérapeutique, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Donc tu nous disais que tu avais commencé par toute la plateforme de marque, par les messages clés. J'avais envie de te demander, parce que c'est connu que le marché du textile, ça peut être aussi un marché compliqué, surtout quand on veut des tissus éco-responsables comme toi, ce qui est ton cas, comme ta marque. Donc, quels sont peut-être les parce que ça fait que 1 an que ça a été lancé, mais peut-être après, quand tu l'as, dans tout ton processus, en fait, de mise en place, quels ont peut-être été les challenges auxquels tu as été confrontée, et les choses au contraire où tu as été agréablement surprise et où ça s'est bien passé, si tu peux un peu revenir sur ça avec nous.
Alors, comme je te disais, toute la partie marketing idée, c'était pas un problème. Après, le vrai challenge était de designer des choses. Donc moi, je sais un peu dessiner, j'avais des idées très claires de ce que je voulais, mais après, voilà, il y a des packs techniques à délivrer aux usines, des mesures, du modélisme, etc., que moi je ne sais pas faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas m'inventer designer, ni m'inventer une vie comme quoi je connais des usines. Alors, du coup, j'ai décidé de m'entourer très vite de ce point de vue-là, parce que voilà, il y a des choses qu'on sait faire et c'est très bien. Et puis, à un moment donné, il faut se dire aussi que ça, on sait pas le faire et qu'il vaut mieux aller chercher des gens qui ont les compétences. Et c'était aussi un gain de temps, c'est-à-dire que j'aurais pu moi-même chercher des usines pendant très longtemps, voilà, avec mon petit projet, ma petite mallette sous le bras, etc., en disant que je commençais. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que les usines, y avait une problématique de minimum quantité, enfin de quantité minimum, pardon, et que du coup, j'allais me confronter au fait que j'étais une nouvelle marque, je suis personne, personne me connaît, on ne sait pas ce que ça va devenir ce projet. Donc voilà. Donc j'ai décidé en fait de m'entourer rapidement de quelqu'un que j'ai trouvé à Londres, qui était spécialisé en fait dans, tu vois, les développements de collections, donc sur la partie plus technique, qui travaillait avec une usine déjà, qui était spécialisée dans le sport. Donc elle avait déjà ses contacts, etc., pour des vêtements qui étaient exactement en fait le type de vêtements que moi je cherchais à développer, donc qui sont vraiment des vêtements techniques. On n'est pas du tout sur du sportswear ou du lifestyle, on est sur des matières avec des vraies propriétés autour de la transpiration, du maintien, etc. Et donc du coup c'est des machines particulières, c'est-à-dire que demain je peux pas aller voir une usine de prêt-à-porter et leur dire moi je veux développer une collection d'activewear, est-ce que vous pourriez m'aider, ils ont pas les machines, c'est des machines spécifiques. Et donc, du coup, j'ai rencontré cette personne, j'ai rencontré une designer avant, on a créé une collection et on a commencé petit à petit à développer la marque. Le premier challenge pour moi, c'était évidemment le Covid, parce que dans les usines, les gens étaient malades, ça a fermé, etc. Donc, j'ai peut-être perdu 6 mois, j'aurais peut-être pu sortir la marque plus tôt. Mais voilà, on a perdu du temps avec ça. Et en fait, le fait de m'entourer dès le début avec cette personne, ça m'a, je pense, fait quand même gagner énormément de temps. Et ça m'a permis, tu vois, tout de suite d'aller vers une usine qui m'a fait confiance, qui a décidé aussi de développer la marque avec moi, de me suivre. Donc voilà, donc après, on a fait ces allers-retours de prototypage. Moi, j'avais une idée bien précise de comment je voulais amener l'univers de la boxe dans l'activewear, donc avec la ceinture de boxe qu'on a un petit peu revue, réinterprétée, les codes de la boxe avec les brandings assez visibles, assez forts. Et du coup, voilà. Mais aujourd'hui, enfin, tu vois, ça, c'était le début. Je me suis fait accompagner et finalement, tout a été assez fluide, en fait, dans la création de cette marque. Je pense parce que, du coup, je me suis entourée sur la partie production qui était certainement le plus gros challenge, finalement. Mais tu vois, encore aujourd'hui, un an après, je me challenge moi-même pour me dire, OK, maintenant, on produit au Portugal. Je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier si demain, il y a quoi que ce soit avec l'usine. Puis eux, le Portugal, c'est un marché, c'est un pays qui est de plus en plus demandé par les petites marques. Et donc, ils absorbent de plus en plus de volume. Et donc, aujourd'hui, tu vois, encore aujourd'hui, mon plus gros challenge, ça reste la production. C'est-à-dire, comment est-ce que je développe des partenariats forts avec des usines qui croient en mon projet, qui acceptent aussi le fait que je sois une petite marque et que je ne vais pas développer 3000 unités par modèle et qui, tu vois, qui sont à l'écoute et qui sont capables d'être réactifs aussi. Donc, je pense que les challenges auxquels j'ai fait le plus face, je dirais, c'est vraiment le développement produit. Et voilà, je pense qu'il faut être persévérant quand on n'a jamais fait de... Alors moi, j'avais fait du développement produit sur des bouteilles en verre, donc dans les vins et spiritueux avant, donc je savais que ça prenait du temps, le développement de manière générale, mais c'est vrai que là, faut s'accrocher, on reçoit le premier proto, il ressemble à rien, enfin c'est... Nous, on a une identité, on voit la marque, on a les messages, c'est cool et tout, et puis on reçoit le truc, on se dit ok. Donc voilà, et puis petit à petit, voilà, faut qu'elles comprennent en fait le niveau d'attente. Donc voilà. Et puis après, le challenge, évidemment, c'est financier, c'est-à-dire faut avoir aussi les reins solides financièrement pour développer ses collections. Puis une fois qu'on a développé les collections, c'est cool, mais faut aussi avoir l'argent pour faire parler de la marque et la promouvoir. Et donc ça, c'est encore un autre challenge auquel voilà il faut savoir faire face. Et je pense que quand on se lance, on s'imagine jamais vraiment ce que ça représente financièrement, surtout quand on fait ce qu'on appelle du direct to consumer, donc quand on veut vendre en direct à notre consommateur final et qu'on passe pas nécessairement par des revendeurs type grand magasin spécialisé, etc. C'est que voilà, faut des moyens assez importants pour faire connaître la marque et la sortir de terre, et ça, c'est encore un autre challenge.
Et toi, comment tu te finances du coup aujourd'hui ?
Alors nous, on est en autofinancement depuis le début. Donc on a investi nos fonds propres pour développer la marque, pour payer les collections et puis pour payer tout l'aspect marketing aussi. Donc voilà, l'argent, c'est un vrai sujet dans le sens où c'est difficile d'investir ses propres économies dans ce projet, donc vraiment c'est sûr qu'il faut y croire. Après, je pense qu'avec on est tous les deux avec mon conjoint qui me soutient aussi beaucoup dans le projet.
Vous êtes associés sur le projet ou il est extérieur ?
Donc lui, il est associé entre guillemets minoritaire et moi, je garde la majeure partie de la boîte. Et puis bon, lui, il a son travail et moi, je suis à 100% dessus. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides sur la partie financière parce que c'est une marque de vêtements. Comme tu le disais, l'univers textile, c'est assez dur. Ça coûte cher, les matières premières, les coûts augmentent. C'est un marché qui est assez saturé aussi. Hein. Il y a beaucoup de marques. Alors après, c'est pas saturé dans tous les pays. Je pense qu'il y a des potentiels. Et nous, on a une vraie envie d'aller à l'international. On n'a pas envie de se limiter à la France parce que voilà, ça reste quand même un petit marché. Puis sur l'univers du sport, on arrive maintenant à quelque chose. Et puis on voit les studios de boxe dans Paris qui ouvrent, etc. Mais c'est vrai que ça reste encore un petit marché. Donc je pense qu'il y a des marchés sur le domaine du sport qui sont un peu plus développé, donc nous on s'interdit pas de tout de suite, on s'est jamais interdit dès le début d'aller chercher l'international aussi parce que voilà, on a vécu à l'étranger, etc.
Et aujourd'hui, vous faites tous les deux, vous êtes que tous les deux ou vous avez agrandi l'équipe ?
Alors, on a une stagiaire, donc on fonctionne avec des stagiaires. Après, moi, c'est un peu un choix que j'ai fait, que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, je pense qu'on pourrait investir. Peut-être pour avoir plus de personnes, des gens qui nous aident sur le projet, parce que évidemment d'être toute seule ou à deux ou même à trois, ça reste compliqué parce qu'il y a tellement de projets, de choses à faire que ça sera jamais assez. Mais après, je me dis que voilà, c'est aussi l'intérêt de monter sa boîte et je sais qu'à un moment donné, ça sera plus possible. Mais moi, j'aime beaucoup aussi l'indépendance. Je gère ma journée comme je veux. Et puis aussi, faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de bureau. Moi, je travaille à la maison, donc on est vraiment en mode start-up 100%. Et donc, si on fait venir des gens, c'est chez nous. Alors, on a de la chance, on a un salon qui s'y prête et on est plutôt bien loti dans le sens où on peut faire venir des gens, on a un peu de place. Mais voilà, après, c'est vrai que du coup, la limite, elle est poreuse entre le perso et le pro, que du coup, la boîte, c'est la maison, c'est la boîte, le stock... une partie à la maison. Donc c'est aussi pour ça, je pense aujourd'hui, que si je trouve des pépites des gens qui, je sens, peuvent vraiment apporter quelque chose, évidemment on a besoin d'être entouré, on a besoin d'aide, mais j'aime aussi l'idée de me dire que moi j'ai mon rythme de travail qui n'est plus celui de LVMH et de bureau. Donc moi, je suis quelqu'un du soir, tu vois, là on se parle, il est 9h, mais pour moi c'est très tôt, tu vois, pour avoir des rendez-vous. Moi je travaille jusqu'à 23h30 et de 18h à 23h30, c'est là où je suis la plus switched on et la plus, tu vois, créative, etc. Et le matin, j'ai un peu plus de mal. Donc voilà, après je sais que quand on va prendre des salariés, des gens, des stagiaires, va falloir aussi se conformer, même si on est en mode start-up, à ce rythme. Même si moi, j'ai très envie de rester open et d'avoir quelqu'un de confiance avec qui je peux dire, écoute, toi, tu travailles mieux de 11h à 21h, et ben fais ce que tu veux. Donc voilà, mais on a des stagiaires et on s'entoure petit à petit, mais on espère faire grandir l'équipe. Ouais.
Je vais recevoir d'ailleurs un suite que je trouve super beau. je te dirai quand je l'aurai essayé ce que j'en pense. Mais il a l'air top. Justement, tu nous parlais que toi, tu étais plutôt du soir. Donc aujourd'hui, pour qu'on peut-être se rende compte de toutes les activités que tu as à faire et tout ce qui représente le développement d'une marque, c'est quoi une journée type, que ce soit en termes d'horaire et puis en termes de tâches, de rendez-vous, comment ça se passe pour toi ?
Alors, donc comme je te disais, moi je travaille beaucoup le soir jusqu'à 23h30. Et donc en fait, quand j'arrête de travailler, j'ai aussi besoin d'avoir un peu la sensation d'avoir eu ma soirée. Du coup, je me couche pas avant minuit et demi. Et du coup, le matin, je commence, en réalité, je commence à 9h30. Tu vois, 9h30, je suis devant mon ordi et je commence à travailler. Donc après, les sujets, ils sont vastes. Il y a des jours où je traite que mes mails, parce que j'ai plein de mails à gérer. Je traite tout ce qui est commandes, des retours clients sur les vêtements, toute la partie création de contenu. Après, il y a plein de projets là sur des collaborations avec d'autres marques qui arriveront en 2023 aussi, sur lesquels faut travailler, faut développer. La partie comptable, parce que j'ai mon comptable qui m'appelle pour me dire... Donc voilà, donc il y a des choses sexy, il y a des choses moins sexy. Et je pense qu'au final, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses au day-to-day à gérer qui sont pas forcément stratégiques pour la marque, mais qui sont nécessaires parce qu'on peut pas y échapper. Et en même temps, du coup, des fois, c'est ce dont on discutait un petit peu hier avec ma designer, c'est qu'on en perd presque le fil de se dire, en fait, à la base, j'ai créé cette marque pour ce message, pour délivrer ce message. Et puis finalement, on se retrouve sous les mails à compta. Donc voilà, donc des fois, en fait, c'est important de se dire stop, on fait un pas en arrière, un pas de recul, et puis on essaie de se remettre un peu sur des choses un petit peu plus vision, aspirationnelle, pourquoi. Et du coup, ça remet aussi un coup de boost. Enfin, c'est important aussi de se rappeler pourquoi on fait tout ça, parce que c'est très prenant, c'est beaucoup de charge mentale et aussi, comme je disais, financièrement. Donc c'est important de remettre les choses dans le contexte. Donc voilà, donc le matin, en général, j'essaye d'être... En fait, je suis assez active le matin sur tous les sujets un peu plus stratégiques pour la marque, tout ce qui est collab, peut-être plus vision 2023, 2024, essayer un peu de me projeter, de faire des choses un peu, voilà. Puis j'ai des meetings aussi. Et puis, en général, j'essaie d'aller m'entraîner le midi, parce que j'ai remarqué qu'en début d'après-midi, je suis pas très active, mon cerveau est un peu en pause, digestion, plus voilà, je vais au sport, donc j'en profite en fait pour sortir et aller m'entraîner. Voilà, c'est important que je puisse continuer à avoir ce rythme. Et honnêtement, les trois premiers mois de la marque, je ne me suis pas entraînée, j'ai pas fait de sport, parce que je culpabilisais en fait dès que j'étais pas en train de devant mon ordi à faire ce que je devais faire, jusqu'à un moment où je me suis dit bon, en fait, encore une fois, si je m'entraîne pas, je sens bien que ça influe sur mon mental, mon moral, et du coup, je me suis imposée de continuer à m'entraîner, aller à la boxe, aller à la salle, etc. Donc, le midi, je fais ça, et puis en début d'après-midi, je reviens. En général, je calme mes rendez-vous et mes calls, etc., en début d'après-midi, donc quand je reviens. Et puis après, je pense à partir de 17, 18 heures, tu vois, je continue à refaire des choses un peu plus où il faut que mon cerveau soit disponible, tu vois, sur des trucs de création de contenu, de peut-être plus de réflexion ou même de enfin voilà des sujets un peu plus importants. Et puis je travaille comme ça jusqu'à 23h. J'adore en fait travailler le soir, c'est
ouais, bah c'est il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Et quand on dit c'est la fameuse loi de Pareto que 20% des actions amènent 80% des résultats, toi, si tu devais faire un petit bilan sur cette première année, qu'est-ce qui a le plus performé qui a contribué plus au développement de la marque et à la faire connaître et à générer des ventes?
Alors, je pense déjà qu'il y a le produit. Le produit, il est éminemment important parce que après, tu peux faire la meilleure com que tu veux. Une fois que la cliente, elle reçoit le produit et que c'est une cata ou qu'en fait, ça va pas ou que c'est pas conforme ou que ça ressemble en rien aux photos, c'est un problème. Je pense qu'on a eu des super retours sur les produits. Donc ça, c'est déjà une grande fierté. Aussi parce que voilà, encore une fois, on investit ce qu'il faut sur des matières qui soient techniques, qui soient responsables, enfin voilà, éco-responsables, qui soient, enfin tu vois, qui répondent en fait à des propriétés qui sont bien propres au sport qu'on vise, c'est-à-dire des sports où on transpire, où c'est assez intense, où on n'a pas forcément envie de remettre son legging en place, etc. Donc tout ça en fait, déjà, ça a été la première façon de se propulser, c'était présenter un produit en fait qui soit performant et qui soit assez nouveau. Et puis après, les autres choses, je pense que c'est aussi, c'est beaucoup via moi, mon networking. Je pense que plus on parle de son projet, plus on parle de la marque, plus on va attirer, tu vois, des nouvelles opportunités, des potentielles clientes. Après, je pense qu'on a fait on a dû faire un peu de pub aussi pour faire connaître la marque et ça a plutôt bien fonctionné. En fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est nous, on se ferme pas à l'international. Et c'est assez marrant, en fait, de voir d'un pays à l'autre comment ça prend de manière différente, selon les messages, dans la collection, il y a plein de choses différentes. Il y a des choses qui prennent mieux dans certains pays, d'autres qui prennent moins bien, selon, tu vois, les cultures, etc. Donc ouais, je pense que ce qui a permis de nous développer, c'est, toutes les rencontres que j'ai faites au fur et à mesure de cette aventure. Tu vois, j'ai fait aussi un incubateur de l'Institut français de la mode, puis après voilà, j'ai fait partie d'autres programmes, donc en fait tout ça m'a aussi permis d'échanger avec d'autres entrepreneurs, de me faire des contacts, de développer la marque, d'avoir plus d'opportunités. Et puis quelque chose qui nous a pas mal aussi aidé, c'est de faire des salons pro, tu vois, sur spécialisés dans l'activewear. Donc en fait on va dans un ça s'appelle un trade show. Donc je suis allée à New York cet été où on avait un stand pour la marque où on a présenté les collections qui existaient et qui allaient arriver. Et puis voilà, il y a des acheteurs américains sur, tu vois, des magasins spécialisés, les grands magasins, etc., qui viennent et qui prennent connaissance de la marque, qui prennent rendez-vous avec nous. Donc voilà, c'est des touches comme ça, petit à petit. C'est des événements aussi, c'est rencontrer notre potentielle cliente, des prescriptrices qui peuvent être pour nous des coachs. qui sont quand même des gens qui sont très regardés quand ils font leurs cours, comment ils sont habillés, c'est des gens qui inspirent beaucoup. Et puis voilà, des influenceuses peut-être un peu plus lifestyle, mais qui sont très suivies, qui sont peut-être très investies dans le sport, ou en tout cas qui ont cette, tu vois, cet état d'esprit assez fighteuse, assez battante, que nous on a envie de défendre. Et voilà, je pense que c'est, enfin, en réalité, c'est vrai que quand on a une start-up et quand on commence, on est obligé d'être un peu sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on peut pas miser sur une seule chose parce que ça serait trop, trop beau, trop facile. Alors peut-être qu'il y en a qui le font et que ça fonctionne et tant mieux. Mais en réalité, voilà, c'est aussi l'idée de lancer beaucoup de bouteilles à la mer, de tenter, de pas se fermer, de pas se dire. Alors, il y a une différence entre lancer plein de pistes et s'éparpiller. Je pense qu'on a un, on peut savoir au fond de nous ce qui vaut la peine, tu vois, d'être développé dans les projets, dans les initiatives. Et voilà, après, effectivement, quand on n'est pas beaucoup au départ, on doit faire des choix, hein, clairement. Mais pour autant, dès qu'il y a une opportunité, je pense qu'il faut, la prendre, il faut la saisir, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener. En fait, des fois, on est juste à un contact, à une personne, tu vois, qui va finalement nous permettre d'avoir un espèce de déclic énorme sur la marque. Et donc, des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Donc voilà, c'est un peu mener plein de petits projets les uns à la suite des autres en même temps.
Exactement. On va finir par des petites questions, Barbara. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Peut-être tes dernières inspirations du moment, que ce soit des livres, des films, des documentaires, ce qui te vient.
Alors, en ce moment, je n'ai pas trop le temps de lire, je t'avouerai. et j'avoue que j'ai un peu ce truc de quand je fais quelque chose, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie que ça soit très rentable. Donc soit c'est parce que j'apprends quelque chose, soit c'est parce que j'ai vraiment un divertissement. Enfin, tu vois, je suis dans un temps où je me pose et je fais rien, et du coup j'aurais que mon cerveau ne réfléchisse plus. Mais en tout cas, je peux te donner deux inspirations là qui me viennent tout de suite, même trois. Bah, la première, c'est ce que je t'ai dit au début un petit peu du podcast, c'est pas forcément un livre ou un film, mais c'est ma grand-mère qui a inspiré ma marque. Notre tagline, c'est maison d'amour, maison de combat. Et en fait, ça fait énormément référence à elle, parce que du coup, mes parents ont beaucoup travaillé, j'ai beaucoup passé de temps du coup avec mes grands-parents et ma grand-mère, et c'est la seule entrepreneuse en fait de la famille. Elle a monté son cabinet de prothésie dentaire, alors qu'à la base, voilà, elle a un parcours assez... assez fascinant. Enfin voilà, elle est partie de rien, etc. Elle a été bonne pour un dentiste, puis elle a fini par passer son diplôme de prothésie dentaire en cours du soir. Et c'était une des premières femmes en France à être prothésiste dentaire, parce que c'était un métier d'homme. Et donc du coup voilà, c'est quelqu'un qui est très qui fonce, qui se pose des questions, mais qui a pas peur. Et donc du coup, je pense que c'est son esprit en fait que je voulais encapsuler dans cette marque. Et je pense qu'elle m'en a donné, elle m'a transmis aussi beaucoup de sa personnalité. Donc je pense que c'est une des grandes inspirations que j'ai autour de moi. La deuxième inspiration, je pense que c'est clairement la boxe, tout ce que je peux voir comme ressources sur la boxe. Tu vois, chaque fois que je vois quelqu'un, un documentaire, ou même moi, que je vais à la boxe m'entraîner, que je vois les gens, pour moi, c'est toujours des sources d'inspiration. En fait, je me dis que voilà, ils sont là, ils sont prêts à mettre leurs gants. Enfin voilà, je trouve que c'est un univers assez assez motivant, assez inspirant. Et ça, c'est des choses qui me drivent un peu tous les jours. Et puis la troisième inspiration qui m'a beaucoup aidée quand j'étais en Thaïlande, je te racontais que j'étais du coup dans ce voyage un peu spirituel, j'avais trouvé un livre en Australie, qui est un livre qui a été écrit par une Suédoise qui habite en Australie et qui a monté une super marque et qui a écrit un livre en fait qui t'aide à réaliser tes rêves. Enfin, du coup, c'est tout un cheminement dans le livre où c'est toi qui écris plein de choses, elle te pose plein de questions et petit à petit, elle arrive à un point final qui fait que normalement, à ce moment-là, t'es prêt à te lancer. Et donc c'est ce livre-là qui m'a pas mal drivé, et je te donnerai la ref si tu veux.
Ouais, je veux bien. Comme ça, je l'écrirai dans les notes de l'épisode. Si ça ne te vient pas, voilà, tu pourras me l'envoyer par mail. Yes. Avec plaisir. Est-ce que tu crois à la chance ?
Oui, complètement. Je pense que en tout cas, si c'est lié à la réussite, je pense qu'il y a toujours un peu de chance, un peu de timing, un peu de travail. C'est un espèce de mélange un peu de tout, mais... Ouais, je pense qu'il y a toujours un facteur chance. Hein, ça explique beaucoup d'aventures qui soient successives. Je pense que rien n'arrive sans un peu de chance.
Tes citations préférées ?
Écoute, je ne sais pas de qui vient cette phrase qui me drive tous les jours, mais tu vois, je suis très solution-oriented, donc je dirais qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est un peu le mood des entrepreneurs. Et puis voilà, c'est ce genre de citation qui me drive aussi.
un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée.
Ouais, j'ai pas la sensation d'avoir vécu de gros échecs, tu vois, qui m'est vraiment plombé. Mais en revanche, je pense que j'ai, enfin, le moment le plus challengeant de ma vie, c'est maintenant, en fait. Et donc, disons que c'est pas un échec, parce que voilà, la marque, elle est en développement. Mais en tout cas, ce à quoi je fais face aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, et en fait, on pourrait se dire qu'un échec, c'est un non, quand on se prend un non, quand on démarche. Mmh. Enfin, voilà, je pense qu'il faut savoir gérer. C'est pas des gros échecs, mais tous les jours, c'est un petit peu de, voilà, il y a des jours avec, des jours sans, des jours où, en fait, on fait plein de ventes et c'est super, et on a des oui, et puis il y a plein de retours, et puis on crée des choses super, et puis il y a des jours où c'est un peu plus le néant, et du coup ces jours-là, je les vis un peu comme des échecs. Je pense que je suis assez compétitrice dans l'âme, donc c'est des choses que je vis pas forcément bien. Mais maintenant, j'essaie de prendre un peu de recul et de regarder un peu plus de manière linéaire sur une semaine, un mois, deux mois, plutôt que me focaliser sur une journée où voilà, tout ne s'est peut-être pas passé comme prévu. Après, je pense que l'échec, c'est aussi une meilleure façon de le gérer avec la boxe, parce qu'à la boxe, tu te prends des coups et donc voilà, t'es pas au top de ta forme tout le temps. Et donc, je pense que ça m'aide aussi beaucoup à relativiser et à me dire que voilà, il y a des jours où je me prends un peu plus de coups que d'autres, et c'est OK.
Et ma dernière question signature du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie ?
Alors, maximiser le potentiel de sa vie, ça m'évoque de faire ses choix, je pense un peu comme on l'entend, c'est-à-dire pas se laisser endormir des fois dans des vies où on est un petit peu confortable. Alors, comme je l'ai dit, moi, je suis une challenger, j'aime beaucoup faire face à des nouveaux challenges, même si des fois c'est un peu fatigant et qu'il faut aussi trouver un rythme où on est, tu vois, un peu en croisière. Mais en tout cas, je pense que maximiser le potentiel de sa vie, c'est bien ça. Et ben c'est aussi chercher son potentiel à soi et le développer, et pas avoir peur en tout cas de le développer et d'y faire face, de prendre confiance en soi et de sauter le pas, en tout cas pour ceux qui ont des idées, qui ont des envies et qui hésitent. Je pense qu'on vit qu'une fois, on est jeune, le temps passe vite et qu'il faut se sentir vivant, et du coup pour ça, faut aller chercher au fond de soi. C'est pas facile. Et c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, si on peut le faire et qu'on est encore une fois dans le bon timing, eh ben faut pas hésiter, faut foncer.
Super, merci beaucoup Barbara.
Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky, smooth tree runner, the responsive foam and extra grip of the tree dasher, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds tree shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.